Alors, une nouvelle vague de migrants pourrait nous arriver sous peu au Canada. Et cette fois-ci, donc, je vous le disais, ce seraient des Salvadoriens qui souhaiteraient s'installer chez nous, demander donc l'asile au Canada. Jorge Contreras, qui est correspondant au Canada pour la grande chaîne espagnole Univision, est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, c'est des informations que vous avez recueillies en parlant à des associations représentant les Salvadoriens, mais en parlant également avec des membres des services de sécurité canadiens, qu'on ne va évidemment pas identifier parce que ce sont vos sources. Mais en résumé, qu'est-ce qui se passe avec les Salvadoriens, là?
En résumé, ils vont perdre leur TPS, le permis temporaire de séjour aux États-Unis, en septembre 2019, un peu comme c'est ce qui est arrivé avec les Haïtiens puis les Nicaraguains. Mm-hmm. OK. Alors, eux autres, ils ne veulent pas retourner au Salvador, étant donné que la situation là-bas est très, très, très précaire et grave. Il y a un problème des gangs de rue, la MS-13, Mara Salvatrucha 13.
Et, ça, c'est un groupe criminalisé.
C'est un groupe criminalisé.
Mais très, 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 très violent.
Très violent. Bernard, j'ai été à Los Angeles cette année pour enquêter pour un documentaire de la BBC sur eux autres. Puis,
c'est épouvantable.
Si ce qu'on voit à la télé, c'est rien.
C'est épouvantable ce qu'ils font. Alors, Bref, tu as des Salvadoriens qui ont quitté le Salvador pour s'installer aux États-Unis. Là, Trump leur dit, à partir de septembre 2019, vous devez retourner chez vous. Et plutôt que de retourner chez eux, ils pourraient décider de s'en venir chez nous. Alors là, ils rentreraient par le chemin Roxham?
Bernard, il y a des Salvadoriens qui sont en train de quitter avec la caravane d'Hondurien. Ceux qui sont aux États-Unis en ce moment ne veulent pas retourner au Salvador, ça c'est sûr. Alors, ils préfèrent soit rester illégaux aux États-Unis ou venir ici. Et c'est ce que tu dis par rapport au chemin Roxham, c'est une porte. Mais ce n'est pas la seule non plus. En parlant avec des personnes que tu as nommées au début, j'ai su qu'il y a une autre porte par Valleyfield, évidemment par Buffalo.
Par Valleyfield?
Par Valleyfield, oui.
Il y aurait une possibilité pour eux d'entrer de façon irrégulière?
De façon irrégulière, dans laquelle il n'y a pas assez de personnel policier et qui pourrait rentrer jusqu'à Montréal ou jusqu'à Toronto.
Et tu dis aussi dans la région de Buffalo. Donc, à ce moment-là, ils rentreraient par l'Ontario.
Par l'Ontario, voilà, c'est ça. Par la région de Buffalo, c'est une mission qui est du côté de Buffalo, qui le reçoit. Ils préparent les papiers parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas rentrer illégalement. Il faut qu'ils rentrent par un poste frontalier.
C'est ça, il n'y a pas de chemin Roxham dans la région de Buffalo.
C'est ça. Il y a les chutes de Niagara qui sont là,
c'est
alors.
Ça, exact.
Je pense pas. Alors, ça serait d'une façon complètement différente.
OK. Les informations que vous avez sont à l'effet que cette vague de migrants toucherait combien de personnes? On parle de combien de Salvadoriens qui pourraient être intéressés à monter vers le nord, vers chez nous?
J'ai parlé avec Eusebio Garcia, qui est le secrétaire de l'Association salvadorienne du Canada à Toronto. Ils sont très bien organisés. Il m'a dit qu'il reçoit de 2 à 3 appels par semaine de personnes qui sont intéressées à vouloir venir ici. Mais eux autres, ils ont fait un site Internet avec une autre coalition à Toronto qui s'appelle elpuente.ca. Mm-hmm. Et là, il y a beaucoup d'informations par rapport aux différents programmes d'immigration. Alors, lui, il dit qu'au total, ça se pourrait qu'il y ait 10% de ces 260 000 personnes qui sont aux États-Unis, des Salvadoriens, qui puissent venir ici au Canada.
OK. 10% des 260 000 Salvadoriens qui ont un permis de séjour temporaire.
Oui.
Là. Donc, 26 000
oui.
qui pourraient s'en venir chez nous et demander l'asile.
C'est son chiffre. Et puis, pour lui, c'est des chiffres conservateurs. Si on compare les Haïtiens, c'était 60 000, puis ils sont rentrés à peu près 10 000, je crois.
En tout cas, l'été 2017, c'était 25 000, mais c'était pas tous des Haïtiens, mais non. La vaste majorité, c'était des Haïtiens. OK, mais 26 000, ça, c'est quand même beaucoup, là. Les informations que tu as de ces associations-là qui travaillent avec les Salvadoriens, est-ce qu'elles sont corroborées par les services de sécurité canadiens?
Selon l'information qui vient du service de sécurité canadien, oui.
OK, les responsables à qui tu as parlé... Te confirme que les Salvadoriens pourraient monter chez nous dans les prochains mois. Est-ce qu'ils te donnent une idée à peu près à quel moment de l'année ils pourraient arriver?
Ce sont des informations qui sont confidentielles pour la population, puis que j'ai eu cette information-là, une information privilégiée. Mm-hmm. Eux autres, ils disent qu'ils s'attendent à une vague à partir du printemps et quelques-uns qui pourraient commencer à rentrer à l'hiver.
Vague à partir du printemps,
oui, partir
mais certains
printemps.
Qui pourraient rentrer, mettons, dès le mois de janvier ou février, là.
comme c'est arrivé dans les années, dans les deux dernières années. Ça commence au mois de décembre, ça commence au mois de janvier. Si les Salvadoriens commencent à voir qu'ils ne peuvent pas régulariser leur statut avant de pouvoir retourner au Salvador, c'est sûr qu'ils vont s'étonter au Canada. Ça leur donne 2-3 années de lousse, hein?
Ben oui, parce que c'est pendant les années où on considère leur demande d'asile, ils retournent pas chez eux. Ils retournent pas dans le pays du Salvador où ils ne veulent plus aller.
Puis Bernard, il n'y a pas juste eux autres. Il y a les Honduriens puis les Guatémaltèques aussi qui pourraient suivre.
Parce qu'eux autres aussi sont en voie de perdre leur permis de séjour temporaire.
Mais le Guatemala, il n'y en a pas. Les Honduriens, ils sont en voie. Ce sont des gens de la même région.
Oui, oui.
Qui ont la même problématique.
Excusez-moi. Oui.
Alors, à ce moment-là, ils vont se parler, puis c'est sûr qu'ils vont tenter une chance avant de retourner dans leur pays.
L'autre chose que tu m'avais dite à un moment donné, c'est qu'ils pourraient venir ici, les Salvadoriens, et si on leur refuse l'asile au terme du processus, ils pourraient retourner aux États-Unis de façon illégale et préférer vivre illégalement aux États-Unis que de retourner au Salvador avec tous les problèmes de sécurité qu'ils vivent là-bas. Exact?
Exact. Ça se fait déjà. Hein? Les gens qui ne sont pas acceptés ici au Canada, qui sont venus du Mexique, qui sont venus de l'Afrique, qui sont venus même d'Haïti, ils retournent aux États-Unis par d'autres passages où est-ce qu'il n'y a pas de sécurité. On parle dans la frontière du Québec et le Vermont.
Ah oui, c'est facile, là. Tu passes par le bois, là.
Voilà, c'est ça. C'est des vignobles.
Hein? Des vignobles?
Oui.
Ouais, toi, tu me dis ça avec un sourire parce que tu es au courant. Alors, je te tutoie parce qu'on a appris à se connaître. Jorge Contreras, je te remercie. Je rappelle que tu es correspondant au Canada pour la chaîne espagnole Univision. Tu me disais juste avant le début de l'entrevue qu'il y a 26 ans exactement aujourd'hui, tu te présentais au poste frontière de la colle pour demander l'asile?
Oui, avec ma mère, avec ma sœur puis ma petite nièce. 26 ans.
Tu es d'origine guatémaltèque.
Voilà, c'est ça.
Voilà, du mélange mexicain, belge et tout ça. Et bref, ça a fonctionné puisque tu es encore avec nous aujourd'hui.
Ben, je suis assis ici aujourd'hui avec toi.
Et tu pratiques le métier de journaliste. Je te remercie.
Merci à toi.
Je te souhaite de joyeuses fêtes. À la prochaine.
À la prochaine, toi aussi.
Et là, on va aller rejoindre Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat des douanes et de l'immigration. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Bernard.
Jean-Pierre, je voulais te parler parce que je voulais savoir, est-ce que s'il arrive effectivement une nouvelle vague de migrants salvadoriens, peut-être des Honduriens ou des Guatémaltèques à travers tout ça, est-ce qu'on est davantage prêt maintenant qu'on l'était à l'été 2018 ou 2017 lorsque les Haïtiens sont arrivés?
Oui,
2017.
Oui, selon moi, non. Puis juste pour apprendre un petit peu les chiffres, Bernard, quand on parle des gens du El Salvador, c'est près de 195 000 les chiffres, nous, qu'on avait eus là, au cours des derniers mois. Donc on parle d'une la plus grosse communauté présentement qui sont détenteurs de permis de TPS, mm-hmm. comme M. Contreras le disait. Donc c'est pas surprenant, c'est comme un peu annoncé lorsque M. Contreras disait. On parle des services secrets canadiens, on parle de différentes organisations qui surveillent les choses. Et si on s'aperçoit, les indicateurs sont là, encore là, c'est pas d'être alarmiste, mais tout au moins d'être prêt. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire. Là. Je fais attention parce que souvent, on déplace des ressources pour venir faire face à ces situations-là. Donc, on crée des trous ailleurs pour venir renforcer ce qui se passe au chemin Roxham. Donc, on espère, parce que pour engager Bernard en agent des services frontaliers, on parle de plus de 30 semaines, là, le processus, le temps de former les agents. Et on regarde le temps passé, on est pratiquement à la veille du nouvel an, mm-hmm. et on n'a pas eu d'indicateur clair. Puis c'est des choses que nous, on avait demandé à l'époque, c'est-à-dire d'augmenter aussi notre vigilance entre les bureaux de douane. Encore une fois, là, M. Contreras a bien décrit la situation. Selon nous, encore une fois, ce qu'on demande, c'est d'augmenter cette vigilance-là. Parce que, vous savez...
Jean-Pierre, oui? C'est parce que le gouvernement Trudeau a annoncé, à coup de grandes déclarations, qu'il mettait beaucoup d'argent pour renforcer notre système aux frontières, qu'ils allaient embaucher des gens et tout ça. T'es-tu en train de nous dire que tout ça, c'était un show de boucan, ça?
Bien, il n'y a rien d'annoncé concrètement pour nous par rapport des ressources. On parle d'infrastructures, on parle de technologie, je crois. On a fait des embauches du côté immigration pour pouvoir regarder les fameuses demandes au fur et à mesure qu'elles arrivaient,
oui.
C'est-à-dire de les traiter dans le système. Ils ont été là, les ressources. Ils n'ont pas été à la première ligne où, présentement, on parle du chemin Roxham. Juste faire un petit topo très rapidement. Encore une fois, on a bâti une bâtisse au chemin Roxham. Les demandeurs d'asile passent par le chemin Roxham à l'heure actuelle. Après ça, sont transférés à nos agents à la frontière de la Colle. Présentement, là, encore là, pas pour être alarmiste, la situation est bel et bien contenue. C'est-à-dire qu'il passe environ une cinquantaine de demandeurs d'asile par 24 heures à l'heure actuelle.
Actuellement?
Actuellement.
Attends un peu, là. On a 50 demandeurs d'asile qui arrivent par le chemin Roxham à chaque jour présentement?
Présentement.
Ils arrivent de où? Ils arrivent de où? Jean-Pierre, ils arrivent de où?
Ils arrivent un peu partout. Ils arrivent, je vous dirais, Yémen, on parlait du Nigeria encore, on parle du Honduras, différentes communautés. Et les cas, ce que les agents me rapportaient tout récemment, sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire que quand on traite les demandes, nous, on doit s'assurer de l'identité des personnes qui demandent le demandeur d'asile et également la complexité de suivre le parcours de ces demandeurs d'asile.
Et de prouver,
dans le besoin,
ben de notamment de vérifier s'ils ont un dossier criminel dans leur pays d'origine ou pas. M'a dit, quand ils arrivent du Yémen, là, tu peux pas appeler un fonctionnaire au Yémen puis demander d'envoyer le dossier, là.
Non.
Hein?
Exactement. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Quand c'était les demandeurs d'asile de 2017, qui étaient, vous aviez raison, là, quand vous avez dit que c'était les Haïtiens, parce que plus de 90%, c'était de la communauté haïtienne. Donc, le travail s'effectuait assez bien. Okay. Ils vivaient aux États-Unis. Il était déjà documenté en bonne partie, mais présentement, c'est pas du tout la clientèle auquel on fait face.
OK. Donc, tu nous dis des douaniers, là, des nouveaux douaniers, là, des embauches, il n'y en a pas eu. En tout cas, il n'y en a pas eu assez. Même chose pour les agents des services frontaliers. Toi, d'après ce que tu vois de ton côté, là, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles embauches. Exact?
Pas du tout.
OK.
Puis on se doit également, Bernard, de renforcer ce qui se passe entre les bureaux de douane, là, les autres endroits où on pourrait être vulnérable. Et on avait demandé de donner ce pouvoir-là aux agents de pouvoir intervenir avec la gendarmerie royale.
Mais c'est ça. Là, c'est plus un job de police, là. Jean-Pierre, on m'a dit qu'ils avaient augmenté les effectifs policiers, moi, à la frontière. Il y a eu plus de moyens pour augmenter le nombre, plus de moyens technologiques, plus de véhicules. J'ai eu cette information-là.
Je le croirais aussi.
OK.
Je le croirais au niveau policier, oui.
Dernière question. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, il y a Valleyfield, mais il y aurait le poste de Hinchinbrook. Ça te dit-tu quelque chose, ça?
Oui, c'est à l'extrême, là, ouest, là, si je ne me trompe pas, là, le coin de Dundee, là.
Mais tu as entendu Georges Contreras qui dit qu'il y a le chemin Roxham, mais il y aurait aussi un autre passage dans le coin de Valleyfield. Es-tu surpris d'entendre cette information-là, toi, ou tu la connaissais déjà?
Pas surpris.
Pas surpris?
Non.
Il arrive par le bois ou il arrive par un plan d'eau? Il arrive comment?
Ils peuvent arriver par un plan d'eau, également par le bois. Tout récemment, là, c'est arrivé. Il y en a eu qui sont arrivés là, à Saint-Armand. Que la famille est arrivée pratiquement en état d'hypothermie. Hein. Donc quand on parle de sécurité, on parle également de la sécurité des gens qui viennent au pays, de s'assurer que ces gens-là qui arrivent de pays chauds, qui se mettent pas dans le trouble là, quand ils traversent la frontière, c'est de s'assurer que ces gens-là le font en toute sécurité.
Saint-Armand, il était passé par les champs?
Oui.
OK. Bon, ben écoute, Jean-Pierre Fortin, merci pour l'entrevue. Bonne chance pour la suite des choses. On risque de se reparler, d'après ce que je comprends. Et j'en profite pour te souhaiter des joyeux Noël puis des joyeuses fêtes, Jean-Pierre.
Pareillement, Bernard.
Salut, à la prochaine.
Au plaisir.
Loïc Tassé s'amène avec l'International.